Les frères Karamazov, troisième partie, livre 8. Mitya. Chapitre 1. Kouzma Samsonov. Dmitri Fiodorovitch, à qui Grushenka, en volant vers une vie nouvelle, avait fait transmettre son dernier adieu, voulant qu'il se souvînt toute sa vie d'une heure d'amour, était en ce moment aux prises avec les pires difficultés. Comme lui-même le dit par la suite, il passa ses deux jours sous la menace d'une congestion cérébrale. Alyosha n'avait pu le découvrir la veille, et il n'était pas venu au rendez-vous assigné par Ivan au cabaret. Conformément à ses instructions, ses logeurs gardèrent le silence. Durant ces deux jours qui précédèrent la catastrophe, il fut littéralement aux abois, luttant avec sa destinée pour se sauver, suivant sa propre expression. Il s'absenta même quelques heures de la ville pour une affaire urgente, malgré sa crainte de laisser Grushenka sans surveillance. L'enquête ultérieure précisa l'emploi de son temps de la façon la plus formelle. Nous nous bornerons à noter les faits essentiels. Bien que Grushenka l'eût aimé pendant une heure, elle le tourmentait impitoyablement. D'abord, il ne pouvait rien connaître de ses intentions. Impossible de les pénétrer par la douceur ou la violence. Elle se serait fâchée et détournée de lui tout à fait. Il avait l'intuition qu'elle se débattait dans l'incertitude, sans parvenir à prendre une décision. Aussi pensait-il, non sans raison, qu'elle devait parfois le détester, lui et sa passion. Tel était peut-être le cas, mais il ne pouvait comprendre exactement ce qui causait l'anxiété de Grushenka. À vrai dire, toute la question qui le tourmentait se ramenait à une alternative. Lui, Mitya ou Fiodor Pavlovitch. Ici, il faut noter un fait certain. Il était persuadé que son père ne manquerait pas d'offrir à Grushenka de l'épouser, si ce n'était déjà fait. Et ne croyait pas un instant que le vieux libertin espérât s'en tirer avec 3 000 roubles. Il connaissait en effet le caractère de la donzelle. Voilà pourquoi il lui semblait parfois que le tourment de Grushenka et son indécision provenaient uniquement de ce qu'elle ne savait qui choisir, ignorant lequel lui rapporterait davantage. Quant au prochain retour de l'officier, de l'homme qui avait joué un rôle fatal dans sa vie et dont elle attendait l'arrivée avec tant d'émotion et d'effroi, chose étrange, il n'y pensait même pas. Il est vrai que Grushenka avait gardé le silence là-dessus pendant ces derniers jours. Pourtant, Mitya connaissait la lettre reçue un mois auparavant et même une partie de son contenu. Grushenka la lui avait alors montrée dans un moment d'irritation, sans qu'il y attachât d'importance, ce qui l'a surpris. Il eût été difficile d'expliquer pourquoi. Peut-être simplement parce que, accablé par sa funeste rivalité avec son père, il ne pouvait rien imaginer de plus dangereux à ce moment. Il ne croyait guère à un fiancé surgi on ne sait d'où après 5 ans d'absence, ni à sa prochaine arrivée, annoncée d'ailleurs en termes vagues. La lettre était nébuleuse, emphatique, sentimentale, et Grushenka lui avait dissimulé les dernières lignes, qui parlaient plus clairement de retour. De plus, Mitya se rappela par la suite l'air de dédain avec lequel Grushenka avait reçu ce message venu de Sibérie. Elle borna là ses confidences sur ce nouveau rival, de sorte que peu à peu, il oublia l'officier. Il croyait seulement à l'imminence d'un conflit avec Fiodor Pavlovitch. Plein d'anxiété, il attendait à chaque instant la décision de Grushenka et pensait qu'elle viendrait brusquement, par inspiration. Si elle allait lui dire « Prends-moi, je suis à toi pour toujours », tout serait terminé. Il l'emmènerait le plus loin possible, sinon au bout du monde, du moins au bout de la Russie. Il se marierait et s'installerait incognito, ignoré de tous. Alors commencerait une vie nouvelle, régénérée, vertueuse, dont il rêvait avec passion. Le bourbier où il s'était enlisé volontairement lui faisait horreur. Et Comme beaucoup en pareil cas, il comptait surtout sur le changement du milieu. Échapper à ces gens, aux circonstances, s'envoler de ce lieu maudit, ce serait la rénovation complète, l'existence transformée. Voilà ce qui le faisait languir. Il y avait bien une autre solution, une autre issue, terrible celle-là. Si tout à coup elle lui disait « Va-t'en, j'ai choisi Fiodor Pavlovitch, je l'épouserai, je n'ai pas besoin de toi. » Alors, oh alors, Mitya ignorait d'ailleurs ce qui arriverait alors, et il l'ignora jusqu'au dernier moment, on doit lui rendre cette justice. Il n'avait pas d'intention arrêtée. Le crime ne fut pas prémédité. Il se contentait de guetter, d'espionner, se tourmentait, mais n'envisageait qu'un heureux dénouement. Il repoussait même toute autre idée. C'est ici que commençait un nouveau tourment, que surgissait une nouvelle circonstance, accessoire, mais fatale et insoluble. Au cas où elle lui dirait « Je suis à toi, emmène-moi !» Comment l'emmènerait-il? Où prendrait-il l'argent? Précisément alors, les revenus qu'il tirait depuis des années des versements réguliers de Fiodor Pavlovitch étaient épuisés. Certes, Grushenka avait de l'argent, mais Mitya se montrait à cet égard d'une fierté farouche. Il voulait l'emmener et commencer une existence nouvelle avec ses ressources personnelles et non avec celles de son adoré. L'idée même qu'il pût recourir à sa bourse lui inspirait un profond dégoût. Je ne m'étendrai pas sur ce fait, je ne l'analyserai pas, me bornant à le noter. Tel était, à ce moment, son état d'âme. Cela pouvait provenir inconsciemment des remords secrets qu'il éprouvait pour s'être approprié l'argent de Catherine Ivanovna. « Je suis un misérable aux yeux de l'une, je le serai de nouveau aux yeux de l'autre !» se disait-il alors, comme lui-même l'avoua par la suite. Si Grushenka l'apprend, elle ne voudra pas d'un pareil individu. Donc, où trouver des fonds? Où prendre ce fatal argent? Sinon, tout échouera. Faute de ressources. Quelle honte! Il savait peut-être où trouver cet argent. Je n'en dirai pas davantage pour le moment, car tout s'éclaircira. Mais j'expliquerai sommairement en quoi consistait pour lui la pire difficulté. Pour se procurer ses ressources, pour avoir le droit de les prendre, il fallait d'abord rendre à Catherine Ivanovna ses 3 000 roubles. Sinon, « Je suis un escroc, un gredin, et je ne veux pas commencer ainsi une vie nouvelle !» décida Mitya. Et il résolut de tout bouleverser au besoin, mais de restituer d'abord et à tout prix cette somme à Catherine Ivanovna. Il s'arrêta à cette décision, pour ainsi dire, aux dernières heures de sa vie, après la dernière entrevue avec Alyosha, sur la route. Instruit par son frère de la façon dont Grushenka avait insulté sa fiancée, il reconnut qu'il était un misérable et le pria de l'en informer, si cela pouvait la soulager. La même nuit, il sentit dans son délire qu'il valait mieux tuer et dévaliser quelqu'un, mais s'acquitter envers Katia. « Je serai un assassin et un voleur pour tout le monde, soit. J'irai en Sibérie, plutôt que de laisser Katia dire que j'ai dérobé son argent pour me sauver avec Grushenka et commencer une vie nouvelle. Ça, c'est impossible. » Ainsi parlait Mitya en grinçant des dents, et il y avait de quoi appréhender par moments une congestion cérébrale. Mais il luttait encore. Chose étrange, on aurait dit qu'avec une pareille résolution, il ne lui restait que le désespoir en partage, car où diantre un gueux comme lui pourrait-il prendre une pareille somme? Cependant, il espéra jusqu'au bout se procurer ses 3 000 roubles, comptant qu'il lui tomberait dans les mains d'une façon quelconque, fût-ce du ciel. C'est ce qui arrive à ceux qui, comme Dmitri, ne savent que gaspiller leur patrimoine, sans avoir aucune idée de la façon dont on acquiert l'argent. Depuis la rencontre avec Alyosha, toutes ses idées s'embrouillaient, une tempête soufflait dans son crâne. Aussi commença-t-il par la tentative la plus bizarre, car il se peut qu'en pareil cas, les entreprises les plus extravagantes paraissent les plus réalisables à de pareils gens. Il résolut d'aller trouver le marchand Samsonov, protecteur de Grushenka, et de lui soumettre un plan d'après lequel celui-ci avancerait aussitôt la somme désirée. Il était sûr de son plan au point de vue commercial, et se demandait seulement comment Samsonov accueillerait sa démarche. Mitya ne connaissait ce marchand que de vue et ne lui avait jamais parlé. Mais depuis longtemps, il avait la conviction que ce vieux libertin, dont la vie ne tenait plus qu'à un fil, ne s'opposerait pas à ce que Grushenka refit la sienne en épousant un homme sûr, que même il le désirait et faciliterait les choses le cas échéant. Par oui dire, ou d'après certaines paroles de Grushenka, il concluait également que le vieillard l'eût peut-être préféré à Fiodor Pavlovitch comme mari de la jeune femme. De nombreux lecteurs trouveront peut-être cynique que Dmitri Fiodorovitch attendit un pareil secours et consentit à recevoir sa fiancée des mains du protecteur de cette jeune personne. Je puis seulement faire remarquer que le passé de Grushenka paraissait définitivement enterré aux yeux de Mitya. Il n'y songeait plus qu'avec miséricorde et avait décidé, dans l'ardeur de sa passion, que, dès que Grushenka lui aurait dit qu'elle l'aimait, qu'elle allait l'épouser, ils seraient aussitôt régénérés l'un et l'autre. Ils se pardonneraient mutuellement leurs fautes et commenceraient une nouvelle existence. Quant à Kuzma Samsonov, il voyait en lui un homme fatal dans le passé de Grushenka, qui ne l'avait pourtant jamais aimé. Un homme maintenant passé, lui aussi, et qui ne comptait plus. Il ne pouvait porter ombrage à Mitya, ce vieillard débile, dont la liaison était devenue paternelle, pour ainsi dire, et cela depuis près d'un an. En tout cas, Mitya faisait preuve d'une grande naïveté, car avec tous ses vices, c'était un homme fort naïf. Cette naïveté le persuadait que le vieux Kuzma, sur le point de quitter ce monde, éprouvait un sincère repentir pour sa conduite envers Grushenka, qui n'avait pas de protecteur et d'amis plus dévoués que ce vieillard désormais inoffensif. Le lendemain de sa conversation avec Alyosha, Mitya, qui n'avait presque pas dormi, se présenta vers 10 heures du matin chez Samsonov et se fit annoncer. La maison était vieille, maussade, spacieuse, avec des dépendances et un pavillon. Au rez-de-chaussée habitaient ses deux fils mariés, sa sœur, fort âgée, et sa fille. Deux commis, dont l'un avait une nombreuse famille, occupaient le pavillon. Tout ce monde manquait de place, tandis que le vieillard vivait seul au premier, ne voulant même pas de sa fille, qui le soignait et devait monter chaque fois qu'il avait besoin d'elle, malgré son asthme invétéré. Le premier se composait de grandes pièces d'apparat, meublées, dans le vieux style marchand, avec d'interminables rangées de fauteuils massifs et de chaises en acajou le long des murs, des lustres de cristal recouverts de housse et d'étrumeaux. Ces pièces étaient vides et inhabitées, le vieillard se confinant dans sa petite chambre à coucher tout au bout, où le servait une vieille domestique en serre-tête et un garçon qui se tenait sur un coffre dans le vestibule. Ne pouvant presque plus marcher à cause de ses jambes enflées, il ne se levait que rarement de son fauteuil, soutenu par la vieille, pour faire un tour dans la chambre. Même avec elle, il se montrait sévère et peu communicatif. Quand on l'informa de la venue du capitaine, il refusa de le recevoir. Mitya insista et se fit de nouveau annoncer. Kuzma Kuzmitch s'informa alors de l'air du visiteur, s'il avait bu ou faisait du tapage. « Non, répondit le garçon, mais il ne veut pas s'en aller. » Sur un nouveau refus, Mitya, qui avait prévu le cas et pris ses précautions, écrivit au crayon « Pour une affaire urgente concernant Agrafena Alexandrovna » et envoya le papier au vieillard. Après avoir réfléchi un instant, celui-ci ordonna de conduire le visiteur dans la grande salle et fit transmettre à son fils cadet l'ordre de monter immédiatement. Cet homme de haute taille et d'une force herculéenne, qui se rasait et s'habillait à l'européenne, le vieux Samsonov portait un caftan et la barbe, arriva aussitôt. Tous tremblaient devant le père. Celui-ci l'avait fait venir, non par crainte du capitaine, et il n'avait pas froid aux yeux, mais à tout hasard, plutôt comme témoin. Accompagné de son fils qu'il avait pris sous le bras, et du garçon, il se traîna jusqu'à la salle. Il faut croire qu'il éprouvait une assez vive curiosité. La pièce où attendait Mitya était immense et lugubre, avec une galerie, des murs imitant le marbre, et trois énormes lustres recouverts de housses. Mitya, assis près de l'entrée, attendait impatiemment son sort. Quand le vieillard parut à l'autre bout, à une vingtaine de mètres, Mitya se leva brusquement et marcha à grands pas de soldat à sa rencontre. Il était habillé correctement, la redingote boutonnée, son chapeau à la main, ganté de noir, comme l'avant-veille au monastère, chez le Staré, lors de l'entrevue avec Fiodor Pavlovitch et ses frères. Le vieillard l'attendait debout, d'un air grave, et Mitya sentit qu'il l'examinait. Son visage, fort enflé ces derniers temps, avec sa lippe pendante, surprit Mitya. Il fit à celui-ci un salut grave et muet, lui indiqua un siège, et, appuyé sur le bras de son fils, prit place en gémissant sur un canapé en face de Mitya. Celui-ci, témoin de ses efforts douloureux, éprouva aussitôt un remords et une certaine gêne en pensant à son néant vis-à-vis de l'important personnage qu'il avait dérangé. « Que désirez-vous, monsieur ?» fit le vieillard une fois assis, d'un ton froid, quoique poli. Mitya tressaillit, se dressa, mais reprit sa place. Il se mit à parler haut, vite, avec exaltation, en gesticulant. On sentait que cet homme aux abois cherchait une issue, prêt à en finir en cas d'échec. Le vieux Samsonov dut comprendre tout cela en un instant, bien que son visage demeurât impassible. Le respectable Kuzma Kuzmitch a probablement entendu parler plus d'une fois de mes démêlés avec mon père, Fiodor Pavlovitch Karamazov, à propos de l'héritage de ma mère. Cela défraie ici toutes les conversations, les gens se mêlant de ce qui ne le regarde pas. Il a pu également en être informé par Grushenka, par Agrafena Alexandrovna, par la très honorée et très respectable Agrafena Alexandrovna. Ainsi débuta Mitya, qui resta court dès les premiers mots. Mais nous ne citerons pas intégralement ces paroles, nous bornant à les résumer. Le fait est que lui, Mitya, avait conféré il y a 3 mois au chef-lieu avec un avocat. Un célèbre avocat, Pavel Pavlovitch Korneplodov, dont vous avez dû entendre parler, Kuzma Kuzmitch. Un vaste front, presque l'esprit d'un homme d'État. Lui aussi vous connaît, et il a parlé de vous dans les meilleurs termes. Mitya resta court une seconde fois. Mais il ne s'arrêta pas pour si peu, passa outre, discourut de plus belle. Cet avocat, d'après les explications de Mitya et l'examen des documents, Mitya s'embrouilla et passa rapidement là-dessus. Fut d'avis, au sujet du village de Tchermachnia, qui aurait dû lui appartenir après sa mère, qu'on pouvait intenter un procès et mater ainsi le vieil énergumène. Car toutes les issues ne sont pas fermées et la justice sait se frayer un chemin. Bref, on pouvait espérer de tirer de Fiodor Pavlovitch un supplément de 6 à 7 000 roubles. Car Tchermachnia en vaut au moins 25 000, que dis-je, 28 000, 30, Kuzma Kuzmitch, et figurez-vous que ce bourreau ne m'en a pas donné 17 000. J'abandonnai alors cette affaire, n'entendant rien à la chicane, et à mon arrivée ici, je fus abasourdi par une action reconventionnelle. » Ici, Mitya s'embrouilla de nouveau et fit un saut. « Eh bien, respectable Kuzma Kuzmitch, ne voulez-vous pas que je vous cède tous mes droits sur ce monstre, et cela pour 3 000 roubles seulement ? Vous ne risquez rien, rien du tout, je vous le jure sur mon honneur. Au contraire, vous pouvez gagner 6 ou 7 000 roubles au lieu de 3. Et surtout, je voudrais terminer cette affaire aujourd'hui même. Nous irions chez le notaire, ou bien... Bref, je suis prêt à tout. Je vous donnerai tous les papiers que vous voudrez. Je signerai. Nous dresserions l'acte aujourd'hui, ce matin même, si possible. Vous me donneriez ces 3 000 roubles. N'êtes-vous pas le plus gros de nos richards? Et vous me sauveriez ainsi, me permettant d'accomplir une action sublime. Car je nourris les plus nobles sentiments envers une personne que vous connaissez bien et que vous entourez d'une sollicitude paternelle. Autrement, je ne serais pas venu. On peut dire que 3 fronts se sont heurtés, car le destin est une chose terrible, Kuzma Kuzmitch. Or, comme vous ne comptez plus depuis longtemps, il reste 2 fronts, suivant mon expression peut-être gauche, mais je ne suis pas littérateur. Le mien est celui de ce monstre. Ainsi, choisissez, moi ou un monstre. Tout est maintenant entre vos mains. 3 destinées et 2 dés. Excusez-moi, je me suis embrouillée, mais vous me comprenez. Je vois à vos yeux que vous m'avez compris. Sinon, il ne me reste qu'à disparaître, voilà. Mitya arrêta net son discours extravagant avec ce « voilà » et, s'étant levé, attendit une réponse à son absurde proposition. À la dernière phrase, il avait senti soudain que l'affaire était manquée et surtout qu'il avait débité un affreux galimatia. « C'est étrange, en venant ici, j'étais sûr de moi, et maintenant je bafouille. » Tandis qu'il parlait, le vieillard demeurait impassible, l'observant d'un air glacial. Au bout d'une minute, Kuzma Kuzmitch dit enfin d'un ton catégorique et décourageant. « Excusez, des affaires de ce genre ne nous intéressent pas. » Mitya sentit ses jambes se dérober sous lui. « Que vais-je devenir, Kuzma Kuzmitch ? » murmura-t-il avec un pâle sourire. « Je suis perdu maintenant. Qu'en pensez-vous ? » « Excusez. » Mitya, debout et immobile, remarqua un changement dans la physionomie du vieillard. Il tressaillit. « Voyez-vous, monsieur, de telles affaires sont délicates. J'entrevois un procès, des avocats, le diable et son train. Mais il y a quelqu'un à qui vous devriez vous adresser. « Mon Dieu, qui est-ce ? Vous me rendez la vie, Kuzma Kuzmitch ? » balbutia Mitya. « Il n'est pas ici en ce moment. C'est un paysan, un trafiquant de bois, surnommé Liagavi. Il mène depuis 1 an des pourparlers avec Fyodor Pavlovitch pour votre bois de Tchermachnia. Ils ne sont pas d'accord sur le prix, peut-être en avez-vous entendu parler. Justement, il se trouve maintenant là-bas et loge chez le père Ilinski au village d'Ilinski, à 12 verstes de la gare de Volovia. Il m'a écrit au sujet de cette affaire, demandant conseil. Fyodor Pavlovitch veut lui-même aller le trouver. Si vous le devanciez en faisant à Liagavi la même proposition qu'à moi, peut-être qu'il... « Voilà une idée de génie !» interrompit Mitya enthousiasmé. « C'est justement ce qu'il lui faut à cet homme. Il est acquéreur. On lui demande cher, et voilà un document qui le rend propriétaire. Ha ha !» Mitya éclata d'un rire sec, inattendu, qui surprit Samsonov. « Comment vous remercier, Kuzma Kuzmitch ?»«
Il n'y a pas de quoi, » répondit Samsonov en inclinant la tête.
« Mais si, vous m'avez sauvé. Oh, c'est un pressentiment qui m'a amené chez vous. « Donc, allons voir ce pop. »«
Inutile de me remercier. »«
J'y cours, j'abuse de votre santé. Jamais je n'oublierai le service que vous me rendez. C'est un russe qui vous le dit, Kuzma Kuzmitch. »
Mitya voulut saisir la main du vieillard pour la serrer, mais celui-ci eut un mauvais regard. Mitya retira sa main, tout en se reprochant sa méfiance.
« Il doit être fatigué, » pensa-t-il.
« C'est pour elle, Kuzma Kuzmitch. Vous comprenez que c'est pour elle ?» dit-il d'une voix retentissante.
Il s'inclina, fit demi-tour, se hâta vers la porte à grandes enjambées. Il palpitait d'enthousiasme.
« Tout semblait perdu, mais mon ange gardien m'a sauvé, » songeait-il. « Et si un homme d'affaires comme ce vieillard,
quel noble vieillard, quelle prestance,
m'a indiqué cette voie, sans doute le succès est assuré. Il n'y a pas une minute à perdre. Je reviendrai cette nuit, mais j'aurai gain de cause. Est-il possible que le vieillard se soit moqué de moi ?»
Ainsi monologuait Mitya en retournant chez lui, et il ne pouvait se figurer les choses autrement.
Ou c'était un conseil pratique, venant d'un homme expérimenté qui connaissait ce Liagavi. Quel drôle de nom! Ou bien le vieillard s'était moqué de lui. Hélas, la dernière hypothèse était la seule vraie. Par la suite, longtemps après le drame, le vieux Samsonov avoua, en riant, s'être moqué du capitaine. Il avait l'esprit malin et ironique, avec des antipathies maladives. Fût-ce l'air enthousiaste du capitaine, la sotte conviction de ce panier percé, que lui, Samsonov, pouvait prendre au sérieux son plan absurde, ou bien un sentiment de jalousie vis-à-vis de Grushenka, au nom de laquelle cet écervelé lui demandait de l'argent? J'ignore ce qui inspira le vieillard. Mais lorsque Mitya se tenait devant lui, sentant ses jambes fléchir et s'écriant stupidement qu'il était perdu, il le regarda avec méchanceté et imagina de lui jouer un tour. Après le départ de Mitya, Kuzma Kuzmitch, pâle de colère, s'adressa à son fils, lui ordonnant de faire le nécessaire pour que ce gueux ne remît jamais les pieds chez lui, sinon... Il n'acheva pas sa menace, mais son fils, qu'il avait pourtant souvent vu courroucer, trembla de peur. Une heure après, le vieillard était encore secoué par la colère. Vers le soir, il se sentit indisposé et envoya chercher le guérisseur.
Chapitre 2. Liagavi. Donc, il fallait galoper. Et Mitya n'avait pas de quoi payer la course. 20 kopecks. Voilà ce qui lui restait de son ancienne prospérité. Il possédait une vieille montre en argent qui ne marchait plus depuis longtemps. Un horloger juif installé dans une boutique, au marché, en donna 6 roubles.
« Je ne m'y attendais pas !» s'écria Mitya enchanté.
L'enchantement continuait. Il prit ses 6 roubles et courut chez lui. Là, il compléta la somme en empruntant 3 roubles à ses logeurs, qui les lui donnèrent de bon cœur, bien que ce fût leur dernier argent, tant il l'aimait. Dans son exaltation, Mitya leur révéla que son sort se décidait, et expliqua, à la hâte bien entendu, presque tout le plan qu'il venait d'exposer à Samsonov, la décision de ce dernier, ses futurs espoirs, etc. Auparavant déjà, ces gens étaient au courant de beaucoup de ses secrets et le regardaient comme des leurs. Un barin, nullement fier. Ayant de la sorte rassemblé 9 roubles, Mitya envoya chercher des chevaux de poste jusqu'à la station de Volovia. Mais de cette façon, on constata et on se souvint qu'à la veille d'un certain événement, Mitya n'avait pas le sou. Que pour se procurer de l'argent, il avait vendu une montre et emprunté 3 roubles à ses logeurs. Tout cela devant témoin. Je note le fait, on comprendra ensuite pourquoi. En roulant vers Volovia, Mitya, radieux à l'idée de débrouiller enfin et de terminer toutes ses affaires, tressaillit pourtant d'inquiétude. Qu'adviendrait-il de Grushenka durant son absence? Se déciderait-elle aujourd'hui à aller trouver Fiodor Pavlovitch? Voilà pourquoi il était parti sans la prévenir, en recommandant au logeur de ne rien dire au cas où l'on viendrait le demander.
« Il faut rentrer ce soir sans faute, » répétait-il, cahoté dans la télègue, « et ramener ce Liagavi pour dresser l'acte. » Mais, hélas, ses rêves n'étaient pas destinés à se réaliser, suivant son plan. D'abord, il perdit du temps en prenant à Volovia le chemin vicinal. Le parcours se trouva être de 18 et non de 12 verstes. Ensuite, il ne trouva pas chez lui le père Ilinski, qui s'était rendu au village voisin. Pendant que Mitya partait à sa recherche avec les mêmes chevaux, déjà fourbus, la nuit était presque venue. Le prêtre, petit homme timide, à l'air affable, lui expliqua aussitôt que ce Liagavi, qui avait logé d'abord chez lui, était maintenant à Sukhoi Poslekok et passerait la nuit dans l'isba du garde forestier, car il trafiquait aussi par là-bas. Sur la première instance de Mitya de le conduire immédiatement auprès de Liagavi et de le sauver ainsi, le prêtre consentit, après quelque hésitation, à l'accompagner à Sukhoi Poslekok, la curiosité s'en mêlant. Par malheur, il conseilla d'aller à pied, car il n'y avait qu'un peu plus d'une verste. Mitya accepta, bien entendu, et marcha comme toujours à grands pas, de sorte que le pauvre ecclésiastique avait peine à le suivre. C'était un homme encore jeune et fort réservé. Mitya se mit aussitôt à parler de ses plans, demanda nerveusement des conseils au sujet de Liagavi, causa tout le long du chemin. Le prêtre l'écoutait avec attention, mais ne conseillait guère. Il répondait évasivement aux questions de Mitya. « Je ne sais pas. D'où le saurais-je ? » etc. Lorsque Mitya parla de ses démêlés avec son père au sujet de l'héritage, le prêtre s'effraya, car il dépendait à certains égards de Fiodor Pavlovitch. Il s'informa avec surprise pourquoi Mitya appelait Liagavi le paysan Gortskin, et lui expliqua que, bien que ce nom de Liagavi fût le sien, il s'en offensait cruellement et qu'il fallait le nommer Gortskin. Sinon, vous n'en pourrez rien tirer et il ne vous écoutera pas. Mitya s'étonna quelque peu et expliqua que Samsonov lui-même l'avait appelé ainsi. À ces mots, le prêtre changea de conversation. Il aurait dû faire part de ses soupçons à Dmitri Fiodorovitch. Si Samsonov l'avait adressé à ce moujik sous le nom de Liagavi, n'était-ce pas par dérision? N'y avait-il pas là quelque chose de louche? Du reste, Mitya n'avait pas le temps de s'arrêter à de pareilles bagatelles. Il cheminait toujours, et s'aperçut seulement en arrivant à Sukhoi Poslekok qu'on avait fait 3 verstes au lieu 1,5. Il dissimula son mécontentement. Ils entrèrent dans l'isba, dont le garde forestier, qui connaissait le prêtre, occupait la moitié. L'étranger était installé dans l'autre, séparé par le vestibule. C'est là qu'ils se dirigèrent en allumant une chandelle. L'isba était surchauffée. Sur une table en bois de pin, il y avait un samovar éteint, un plateau avec des tasses, une bouteille de rhum vide, un carafon d'eau-de-vie presque vide et les restes d'un pain de froment. L'étranger reposait sur le banc, son vêtement roulé sous sa tête en guise d'oreiller, et ronflait pesamment. Mitya était perplexe. « Certainement, il faut le réveiller. Mon affaire est trop importante. Je me suis tant dépêché. J'ai hâte de m'en retourner aujourd'hui même. » murmurait-il inquiet. Il s'approcha et se mit à le secouer, mais le dormeur ne se réveilla pas. « Il est ivre, » conclut Mitya. « Que faire, mon Dieu, que faire ?» Dans son impatience, il commença à le tirer par les mains, par les pieds, à le soulever, à l'asseoir sur le banc, mais il n'obtint, après de longs efforts, que de sourds grognements et des invectives énergiques, bien que confuses. « Vous feriez mieux d'attendre, » dit enfin le prêtre. « Vous ne tirerez rien de lui maintenant. » « Il a bu toute la journée, » fit observer le garde. « Mon Dieu !» s'écria Mitya. « Si vous saviez comme j'ai besoin de lui et dans quelle situation je me trouve !» Mieux vaut attendre jusqu'à demain matin, répéta le prêtre.
Jusqu'au matin? Mais c'est impossible!
Dans son désespoir, il allait encore secouer l'ivrogne, mais s'arrêta aussitôt, comprenant l'inutilité de ses efforts. Le prêtre se taisait, le garde ensommeillé était maussade.
Quelle tragédie on rencontre dans la vie réelle!
Proféra Mitya désespéré. La sueur ruisselait de son visage. Le prêtre profita d'une minute de calme pour lui expliquer sagement que même s'il parvenait à réveiller le dormeur, celui-ci ne pourrait discuter avec lui, étant ivre. Puisqu'il s'agit d'une affaire importante, c'est plus sûr de le laisser tranquille jusqu'au matin.
Mitya en convint. « Je resterai ici, mon père, à attendre l'occasion. Dès qu'il s'éveillera, je commencerai. Je te paierai la chandelle et la nuitée, » dit-il au gardien. « Tu te souviendras de Dmitri Karamazov. Mais vous, mon père, où allez-vous coucher ?»«
Ne vous inquiétez pas, je retourne chez moi sur sa jument, » dit-il en désignant le garde.
« Sur quoi ? Adieu et bonne chance !»
Ainsi fut fait. Le prêtre enfourcha la jument, heureux de s'être dégagé, mais vaguement inquiet, et se demandant s'il ne ferait pas bien d'informer le lendemain Fiodor Pavlovitch de cette curieuse affaire. « Sinon, il se fâchera en l'apprenant et me retirera sa faveur. » Le garde, après s'être gratté, retourna sans mot dire dans sa chambre. Mitya prit place sur le banc pour attendre l'occasion, comme il disait. Une profonde angoisse l'étreignait, tel qu'un épais brouillard. Il songeait sans parvenir à rassembler ses idées. La chandelle brûlait, un grillon chantait, on étouffait dans la chambre surchauffée. Il se représenta soudain le jardin, l'entrée. La porte de la maison de son père s'ouvrait mystérieusement et Grushenka accourait. Il se leva vivement.
« Tragédie !» murmura-t-il en grinçant des dents.
Il s'approcha machinalement du dormeur et se mit à l'examiner. C'était un moujik efflanqué, encore jeune, aux cheveux bouclés, à la barbiche rousse. Il portait une blouse d'indienne et un gilet noir, avec la chaîne d'une montre en argent au gousset. Mitya considérait cette physionomie avec une véritable haine. Les boucles surtout l'exaspéraient. Dieu sait pourquoi. Le plus humiliant, c'est que lui, Mitya, restait là, devant cet homme, avec son affaire urgente, à laquelle il avait tout sacrifié, à bout de force. Et ce fainéant, dont dépend maintenant mon sort, ronfle comme si de rien n'était, comme s'il venait d'une autre planète. Mitya, perdant la tête, s'élança de nouveau pour réveiller l'ivrogne. Il y mit une sorte d'acharnement, le houspilla, alla jusqu'à le battre. Mais au bout de 5 minutes, n'obtenant aucun résultat, il se rassit, en proie à un désespoir impuissant.
« Sottise, sottise, que tout cela est donc pitoyable !»
Il commençait à avoir la migraine.
« Faut-il tout abandonner, m'en retourner » songeait-il. « Non, je resterai jusqu'au matin, exprès. Pourquoi être venu ici? Et je n'ai pas de quoi m'en retourner. Comment faire ? Oh, que tout cela est donc absurde !»
Cependant, son mal de tête augmentait. Il resta immobile et s'assoupit insensiblement, puis s'endormit, assis. Au bout de 2 heures, il fut réveillé par une douleur intolérable à la tête. Ses tempes battaient. Il fut longtemps à revenir à lui et à se rendre compte de ce qui se passait. Il comprit enfin que c'était un commencement d'asphyxie dû au charbon et qu'il aurait pu mourir. L'ivrogne ronflait toujours. La chandelle avait coulé et menaçait de s'éteindre. Mitya poussa un cri et se précipita en chancelant chez le garde qui fut bientôt réveillé. En apprenant de quoi il s'agissait, il alla faire le nécessaire, mais accueillit la chose avec un flegme surprenant, ce dont Mitya fut vexé.
« Mais il est mort ! Il est mort, alors ! Que faire ? »
s'écria-t-il dans son exaltation. On donna de l'air, on déboucha le tuyau. Mitya apporta du vestibule un seau d'eau dont il s'arrosa la tête, puis il trempa un chiffon qu'il appliqua sur celle de Liagavi. Le garde continuait à montrer une indifférence dédaigneuse. Après avoir ouvert la fenêtre, il dit d'un air maussade « Ça va bien comme ça !» puis retourna se coucher en laissant à Mitya une lanterne allumée. Durant une demi-heure, Mitya s'empressa autour de l'ivrogne, renouvelant la compresse, résolu à veiller toute la nuit. À bout de force, il s'assit pour reprendre haleine. Ses yeux se fermèrent aussitôt. Il s'allongea inconsciemment sur le banc et s'endormit d'un sommeil de plomb. Il se réveilla fort tard, vers 9 heures. Le soleil brillait aux deux fenêtres de l'isba. Le personnage, aux cheveux bouclés, était installé devant un samovar bouillant et un nouveau carafon, dont il avait déjà bu plus de la moitié. Mitya se leva en sursaut et s'aperçut aussitôt que le gaillard était de nouveau ivre, irrémédiablement ivre. Il le considéra une minute, écarquillant les yeux. L'autre le regardait en silence, d'un air rusé et flegmatique, et même avec arrogance à ce que crut Mitya. Il s'élança vers lui. « Permettez, voyez-vous, je... Le garde a dû vous dire qui je suis. Le lieutenant Dmitri Karamazov, fils du vieillard avec qui vous êtes en pourparlers pour une coupe. » « Tu mens !» répliqua l'ivrogne d'un ton décidé. « Comment ça? Vous connaissez Fiodor Pavlovitch ?»«
Je ne connais aucun Fiodor Pavlovitch !» proféra le bonhomme la langue pâteuse.
« Mais vous marchandez son bois! Réveillez-vous! Remettez-vous! C'est le père Pavel Ilinski qui m'a conduit ici. Vous avez écrit à Samsonov, il m'adresse à vous. »
Mitya haletait.
« Tu mens !» répéta Liagavi.
Mitya se sentit défaillir. « De grâce, ce n'est pas une plaisanterie. Vous êtes ivre sans doute. Vous pouvez enfin parler, comprendre. Sinon, c'est moi qui n'y comprends rien. »
« Tu es teinturier. »
« Permettez, je suis Karamazov, Dmitri Karamazov. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition très avantageuse. Précisément à propos du bois. »
L'ivrogne se caressait la barbe d'un air important.
« Non, tu as traité à forfait et tu es un gredin. »«
Je vous assure que vous vous trompez !» hurla Mitya en se tordant les mains.
Le manant se caressait toujours la barbe. Soudain, il cligna de l'œil d'un air rusé. « Cite-moi une loi qui permette de commettre des vilenies, entends-tu? Tu es un gredin, comprends-tu ?»
Mitya recula d'un air sombre. Il eut la sensation d'un coup sur le front, comme il le dit par la suite. Ce fut soudain un trait de lumière. Il comprit tout. Il demeurait stupide, se demandant comment, lui, un homme pourtant sensé, avait pu prendre au sérieux une telle absurdité, s'engager dans une pareille aventure, s'empresser autour de ce Liagavi, lui mouiller la tête. « Cet individu est saoul et se saoulera encore une semaine, à quoi bon attendre? Et si Samsonov s'était joué de moi? Et si elle... Mon Dieu, qu'ai-je fait ?»
Le croquant le regardait et riait dans sa barbe. En d'autres circonstances, Mitya, de colère, eût assommé cet imbécile. Mais maintenant, il se sentait faible comme un enfant. Sans dire un mot, il prit son pardessus sur le banc, le revêtit, passa dans l'autre pièce. Il n'y trouva personne et laissa sur la table 50 kopecks pour la nuitée, la chandelle et le dérangement. En sortant de l'isba, il se trouva en pleine forêt. Il partit à l'aventure, ne se rappelant même pas quelle direction prendre, à droite ou à gauche de l'isba. La veille, dans sa précipitation, il n'avait pas remarqué le chemin. Il n'éprouvait aucun sentiment de vengeance, pas même envers Samsonov, et suivait machinalement les 3 sentiers, la tête perdue, et sans s'inquiéter où il allait. Le premier enfant venu l'aurait terrassé, tant il était épuisé. Il parvint pourtant à sortir de la forêt.
Les champs, moissonnés et dénudés, s'étendaient à perte de vue.
Partout le désespoir, la mort,
répétait-il en cheminant. Par bonheur, il rencontra un vieux marchand qu'un voiturier conduisait à la station de Volovia. Ils prirent avec eux Mitya, qui avait demandé son chemin. On arriva 3 heures après. À Volovia, Mitya commanda des chevaux pour la ville et s'aperçut qu'il mourait de faim. Pendant qu'on attelait, on lui prépara une omelette. Il la dévora, ainsi qu'un gros morceau de pain, du saucisson, et avala 3 petits verres d'eau-de-vie. Une fois restauré, il reprit courage et recouvra sa lucidité. Il allait à grand air, pressait le voiturier, ruminait un nouveau plan infaillible pour se procurer le jour même ce maudit argent.
Dire que la destinée peut dépendre de 3 000 malheureux roubles,
s'écriait-il dédaigneusement.
Je me déciderai aujourd'hui.
Et sans la pensée continuelle de Grushenka et l'inquiétude qu'il éprouvait à son sujet, il aurait peut-être été tout à fait gai. Mais cette pensée le transperçait à chaque instant, comme un poignard. Enfin, on arriva, et Mitya courut chez elle. Chapitre 3. Les mines d'or. C'était précisément la visite dont Grushenka avait parlé avec tant d'effroi à Rakitine. Elle attendait alors un courrier et se réjouissait de l'absence de Mitya, espérant qu'il ne viendrait peut-être pas avant son départ, quand soudain il avait paru. On sait le reste. Pour le dépister, elle s'était fait accompagner par lui chez Kuzma Samsonov, où soi-disant elle devait faire les comptes. En prenant congé de Mitya, elle lui fit promettre de venir la chercher à minuit. Il était satisfait de cet arrangement.
Elle reste chez Kuzma, donc elle n'ira pas chez Fiodor Pavlovitch,
pourvu qu'elle ne mente pas, ajouta-t-il aussitôt. Il la croyait sincère. Sa jalousie consistait à imaginer, loin de la femme aimée, toutes sortes de trahisons. Il revenait auprès d'elle, bouleversé, persuadé de son malheur, mais au premier regard jeté sur ce doux visage, une révolution s'opérait en lui. Il oubliait ses soupçons et avait honte d'être jaloux. Il se hâta de rentrer chez lui. Il avait encore tant à faire. Du moins, il avait le cœur plus léger. Il faut maintenant m'informer auprès de Smerdiakov s'il n'est rien arrivé hier soir, si elle n'est pas venue chez Fiodor Pavlovitch. Ah !
De sorte qu'avant même d'être à la maison, la jalousie s'insinuait de nouveau dans son cœur inquiet.
La jalousie. Othello n'est pas jaloux, il est confiant, a dit Pouchkine. Cette observation atteste la profondeur de notre grand poète. Othello est bouleversé parce qu'il a perdu son idéal. Mais il n'ira pas se cacher, espionner, écouter aux portes. Il est confiant. Au contraire, il a fallu le mettre sur la voie, l'exciter à grand-peine pour qu'il se doute de la trahison. Tel n'est pas le vrai jaloux. On ne peut s'imaginer l'infamie et la dégradation dont un jaloux est capable de s'accommoder sans aucun remords. Et ce ne sont pas toujours des âmes viles qui agissent de la sorte. Au contraire, tout en ayant des sentiments élevés, un amour pur et dévoué, on peut se cacher sous les tables, acheter des coquins, se prêter au plus ignoble espionnage. Othello n'aurait jamais pu se résigner à une trahison. Je ne dis pas pardonner, mais s'y résigner. Bien qu'il eût la douceur et l'innocence d'un petit enfant. Bien différent est le vrai jaloux. On a peine à se figurer les compromis et l'indulgence dont certains sont capables. Les jaloux sont les premiers à pardonner. Toutes les femmes le savent. Ils pardonneraient, après une scène terrible, bien entendu, une trahison presque flagrante, les étreintes et les baisers dont ils ont été témoins, si c'était la dernière fois, si leur rival disparaissait, s'en allait au bout du monde, et si eux-mêmes partaient avec la bien-aimée dans un lieu où elle ne rencontrera plus l'autre. La réconciliation, naturellement, n'est que de courte durée, car en l'absence d'un rival, le jaloux en inventerait un second. Or, que vaut un tel amour, objet d'une surveillance incessante? Mais un vrai jaloux ne le comprendra jamais. Il y a pourtant parmi eux des gens aux sentiments élevés, et, chose étonnante, alors qu'ils sont aux écoutes dans un réduit, tout en comprenant la honte de leur conduite, ils n'éprouvent sur le moment aucun remords. À la vue de Grushenka, la jalousie de Mitya disparaissait. Il redevenait confiant et noble, se méprisait même pour ses mauvais sentiments. Cela signifiait seulement que cette femme lui inspirait un amour plus élevé qu'il ne le croyait, où il y avait autre chose que la sensualité, l'attrait charnel dont il parlait à Alyosha. Mais Grushenka partie, Mitya recommençait à soupçonner en elle toutes les bassesses, toutes les perfidies de la trahison, sans éprouver le moindre remords. Ainsi donc, la jalousie le tourmentait de rechef. En tout cas, le temps pressait. Il fallait d'abord se procurer une petite somme, les 9 roubles de la veille ayant passé presque entier au déplacement. Et chacun sait que, sans argent, on ne va pas loin. Il y avait songé dans la télègue qui le ramenait, en même temps qu'au nouveau plan. Il possédait 2 excellents pistolets qu'il n'avait pas encore engagés, y tenant par-dessus tout. Au cabaret, à la capitale, il avait fait la connaissance d'un jeune fonctionnaire et appris que, célibataire et fort à son aise, celui-ci avait la passion des armes. Il achetait pistolets, revolvers, poignards, dont il faisait des panoplies qu'il montrait avec vanité, habile à expliquer le système d'un revolver, la manière de le charger, de tirer, etc. Sans hésiter, Mitya alla lui offrir ses pistolets en gage pour 10 roubles. Le fonctionnaire, enchanté, voulait absolument les acheter, mais Mitya n'y consentit pas. L'autre lui donna 10 roubles, déclarant qu'il ne prendrait pas d'intérêt. Ils se quittèrent bons amis. Mitya se hâtait. Il se rendit à son pavillon, derrière la maison de Fiodor Pavlovitch, pour appeler Smerdiakov. Mais de cette façon, on constata de nouveau que 3 ou 4 heures avant un certain événement dont il sera question, Mitya était sans le sou et avait engagé un objet auquel il tenait, tandis que 3 heures plus tard, il se trouvait en possession de 1000 roubles. Mais n'anticipons pas. Chez Marie Kondratievna, la voisine de Fiodor Pavlovitch, il apprit avec consternation la maladie de Smerdiakov. Il écouta le récit de la chute dans la cave, la crise qui suivit, l'arrivée du médecin, la sollicitude de Fiodor Pavlovitch. On l'informa aussi du départ de son frère Ivan pour Moscou le matin même. « Il a dû passer avant moi par Volovia, » songea-t-il. Mais Smerdiakov l'inquiétait fort. « Que faire maintenant? Qui veillera pour me renseigner ?» Il questionna avidement ses femmes pour savoir si elles n'avaient rien remarqué la veille. Celles-ci comprirent fort bien ce qu'il entendait et le rassurèrent. Tout s'était passé normalement. Mitya réfléchit. Assurément, il fallait veiller aussi aujourd'hui. Mais où? Ici ou à la porte de Samsonov? Il décida que ce serait aux 2 endroits, à son gré, et en attendant... Il y avait ce nouveau plan, sûr, conçu en route, et dont il était impossible de différer l'exécution. Mitya résolut d'y consacrer 1 heure. « En 1 heure, je saurai tout. Et alors, j'irai d'abord chez Samsonov m'informer si Grushenka y est. Puis je reviendrai ici jusqu'à 11 heures, et je retournerai là-bas pour la reconduire. » Il courut chez lui, et après avoir fait sa toilette, se rendit chez Madame Koklakov. Hélas, tel était son fameux plan. Il avait résolu d'emprunter 3000 roubles à cette dame, persuadé qu'elle ne les lui refuserait pas. On s'étonnera peut-être que dans ce cas, il ne se soit pas d'abord adressé à quelqu'un de son monde, au lieu d'aller trouver Samsonov, dont le tour d'esprit lui était étranger, et avec qui il ne savait pas s'exprimer. Mais c'est que, depuis 1 mois, il avait presque rompu avec elle. Il la connaissait peu, d'ailleurs, et savait qu'elle ne pouvait pas le souffrir, car il était le fiancé de Catherine Ivanovna. Elle aurait voulu que la jeune fille le quittât pour épouser le cher Ivan Fiodorovitch, si instruit, qui avait de si belles manières. Celle de Mitya lui déplaisait fort. Il se moquait d'elle et avait dit une fois que « cette dame était aussi vive et désinvolte que peu instruite ». Mais le matin, en Télég, il avait eu comme un trait de lumière. « Si elle s'oppose à mon mariage avec Catherine Ivanovna ?» Et il la savait irréconciliable. « Pourquoi me refuserait-elle maintenant ces 3 000 roubles qui me permettraient d'abandonner Katia et de partir définitivement ?» Quand ces grandes dames comblées ont un caprice en tête, elles n'épargnent rien pour arriver à leur fin. Elle est d'ailleurs si riche. Quant au plan, il était le même que précédemment, c'est-à-dire l'abandon de ses droits sur Tchermachnia, non à des fins commerciales comme pour Samsonov, ni sans vouloir tenter cette dame, comme le marchand, par la possibilité d'une bonne affaire, d'un gain de quelques milliers de roubles, mais simplement en garantie de sa dette. En développant cette nouvelle idée, Mitya s'enthousiasmait, comme il arrivait toujours lors de ses entreprises et de ses nouvelles décisions. Tout nouveau projet le passionnait. Néanmoins, en arrivant au perron, il éprouva un frisson subit. À cet instant, il comprit, avec une précision mathématique, que c'était là son dernier espoir, qu'en cas d'échec, il n'aurait plus qu'à égorger quelqu'un pour le dévaliser. Il était 7h30 quand il sonna. D'abord, tout marcha à souhait. Il fut reçu sur le champ. « On dirait qu'elle m'attend !» songea Mitya. Sitôt introduit au salon, la maîtresse du logis parut et lui déclara qu'elle l'attendait. « Je ne pouvais supposer que vous viendriez, convenez-en, et cependant je vous attendais. Admirez mon instinct, Dmitri Fiodorovitch. Je comptais sur votre visite aujourd'hui. »
« C'est vraiment bizarre, madame, » dit Mitya en s'asseyant gauchement. « Mais je suis venu pour une affaire très importante. Oui, de la plus haute importance, en ce qui me concerne au moins. Et je m'empresse. Je sais, Dmitri Fiodorovitch, il ne s'agit plus de pressentiments, de penchants rétrogrades pour les miracles. Avez-vous entendu parler du Starézosime ? C'était fatal. Vous deviez venir après tout ce qui s'est passé avec Catherine Ivanovna.
C'est du réalisme, cela, madame. Mais permettez-moi de vous expliquer.
Précisément, du réalisme, Dmitri Fiodorovitch. Il n'y a que ça qui compte à mes yeux. Je suis revenu des miracles. Vous avez appris la mort du Starézosime ?
Non, madame, je n'en savais rien, répondit Mitya un peu surpris. Le souvenir d'Alyosha lui revint.
« Il est mort cette nuit même, et imaginez-vous, madame, » interrompit Mitya, « je m'imagine seulement que je suis dans une situation désespérée et que si vous ne me venez pas en aide, tout s'écroulera, moi le premier. Pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, la fièvre me brûle. »
« Oui, je sais que vous avez la fièvre, il ne peut en être autrement. » « Quoi que vous disiez, je le sais d'avance. Il y a longtemps que je m'occupe de votre destinée, Dmitri Fiodorovitch. Je la suis, je l'étudie. Je suis un médecin expérimenté, croyez-le. »
« Je n'en doute pas, madame. En revanche, je suis, moi, un malade expérimenté, » répliqua Mitya en s'efforçant d'être aimable. « Et j'ai le pressentiment que si vous suivez avec un tel intérêt ma destinée, vous ne me laisserez pas succomber. Mais permettez-moi, enfin, de vous exposer le plan qui m'amène et ce que j'attends de vous. Je suis venue, madame. »
« À quoi bon ces explications ? Ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas le premier à qui je serais venue en aide, Dmitri Fiodorovitch. Vous avez dû entendre parler de ma cousine Belmessove. Son mari était perdu. Eh bien, je lui ai conseillé l'élevage des chevaux. Et maintenant, il prospère. Vous connaissez-vous en élevage, Dmitri Fiodorovitch ?
Pas du tout, madame, pas du tout, s'écria Mitya qui se leva dans son impatience.
Je vous supplie, madame, de m'écouter. Laissez-moi parler 2 minutes seulement pour vous expliquer mon projet. De plus, je suis très pressée !» cria Mitya avec exaltation, comprenant que la brave dame allait encore parler, et dans l'espoir de crier plus fort qu'elle. « Je suis désespérée. Je suis venue vous emprunter 3 000 roubles contre un gage sûr, offrant pleine garantie. Laissez-moi seulement vous dire. « Après, après !» fit Madame Koklakov en agitant la main. « Je sais déjà tout ce que vous voulez me dire. Vous me demandez 3 000 roubles. Je vous donnerai bien davantage. Je vous sauverai, Dmitri Fiodorovitch. Mais il faut m'obéir. » Mitya sursauta. « Auriez-vous cette bonté, madame ? » s'écria-t-il d'un ton pénétré. « Seigneur, vous sauvez un homme de la mort, du suicide. Mon éternelle reconnaissance !»« Je vous donnerai infiniment plus de 3 000 roubles !» répéta madame Koklakov, qui contemplait, souriante, l'enthousiasme de Mitya. « Mais il ne m'en faut pas tant. J'ai besoin seulement de cette fatale somme, 3 000 roubles. Je vous offre une garantie et vous remercie. Mon plan... Assez, Dmitri Fiodorovitch. C'est dit, c'est fait !» trancha madame Koklakov, avec la modestie triomphante d'une bienfaitrice. « J'ai promis de vous sauver, et je vous sauverai, comme Belmessov. Que pensez-vous des mines d'or ?»« Les mines d'or, madame ? Je n'y ai jamais pensé. »« Mais moi, j'y pense pour vous. Voilà un mois que je vous observe. Quand vous passez, je me dis toujours, voilà un homme énergique dont la place est aux mines. J'ai même étudié votre démarche, et je suis persuadée que vous découvrirez des filons. »
D'après ma démarche, madame ?
Pourquoi pas ? Comment ? Vous niez qu'on puisse connaître le caractère d'après la démarche, Dmitri Fiodorovitch ? Les sciences naturelles confirment le fait. Oh, je suis réaliste. Dès aujourd'hui, après cette histoire au monastère qui m'a tant affectée, je suis devenue tout à fait réaliste et veux me livrer à une activité pratique. Je suis guérie du mysticisme. Ah, c'est, comme dit Tourguéniev. Mais madame, ces 3 000 roubles que vous m'avez promis si généreusement, ils ne vous échapperont pas. C'est comme si vous les aviez dans votre poche. Et non pas 3 000, mais 3 000 000, à bref délai. Voilà mon idée. Vous découvrirez des mines, vous gagnerez des millions. À votre retour, vous serez devenu un homme d'action capable de nous guider vers le bien. Faut-il donc tout abandonner aux Juifs ? Vous construirez des édifices, vous fonderez diverses entreprises, vous secourrez les pauvres et ils vous béniront. Nous sommes au siècle des voies ferrées. Vous serez connu et remarqué au ministère des Finances, dont la détresse est, vous le savez, immense. La chute de notre monnaie fiduciaire m'empêche de dormir, Dmitri Fiodorovitch. On me connaît mal sous ce rapport. « Madame, madame !» interrompit de nouveau Dmitri inquiet. « Je suivrai très probablement votre sage conseil. J'irai peut-être là-bas, dans ces mines. Je reviendrai en causer avec vous. » Mais maintenant, ces 3 000 roubles que vous m'avez si généreusement offerts, ils me libéreraient, et si possible, aujourd'hui, je n'ai pas une heure à perdre.
Écoutez, Dmitri Fiodorovitch, en voilà assez.
Une question. Partez-vous pour les mines d'or, oui ou non ? Répondez-moi catégoriquement.
J'irai, madame, ensuite. J'irai où vous voudrez, mais maintenant...
Attendez donc !
Elle se dirigea vivement vers un magnifique bureau et fouilla dans les tiroirs avec précipitation.
« Les 3 000 roubles !» pensa Mitya, crispé par l'attente. « Et cela tout de suite, sans papier, sans formalité. Quelle grandeur d'âme ! L'excellente femme ! Si seulement elle parlait moins !»«
Voilà !» s'écria-t-elle, rayonnante et revenant vers Mitya. « Voilà ce que je cherchais !»
C'était une petite icône en argent avec un cordon comme on en porte parfois sous le linge.
« Elle vient de Kiev, Dmitri Fiodorovitch, » dit madame Koklakov avec respect. « Elle a touché les reliques de Sainte Barbe, la mégalomartyre. Permettez-moi de vous passer moi-même cette petite icône autour du cou et de vous bénir à la veille d'une vie nouvelle. »
Et la lui ayant passée autour du cou,
elle se mit en devoir de l'ajuster. Mitya, très gêné, s'inclina et lui vint en aide. Enfin, l'icône fut placée comme il fallait.
« Maintenant, vous pouvez partir !»
dit-elle en se rasseyant triomphante.
« Madame, je suis touchée et ne sais comment vous remercier de votre sollicitude. Mais si vous saviez comme je suis pressée, cette somme que j'attends de votre générosité, oh, madame, puisque vous êtes si bonne, si généreuse !»
Et Mitya eut une inspiration.
« Permettez-moi de vous révéler, ce que d'ailleurs vous savez déjà, j'aime une personne. » J'ai trahi Katia, Catherine Ivanovna, veux-je dire. Oh, j'ai été inhumain, malhonnête. Mais j'en aimais une autre, une femme que vous méprisez peut-être, car vous êtes au courant, mais que je ne puis abandonner. Aussi, ces 3000 roubles.
Abandonnez tout, Dmitri Fiodorovitch, interrompit d'un ton tranchant Madame Koklakov.
Surtout les femmes. Votre but, ce sont les mines. Inutile d'y mener des femmes. Plus tard, quand vous reviendrez riche et célèbre, vous trouverez une amie de cœur dans la plus haute société. Ce sera une jeune fille moderne, savante et sans préjugés. À cette époque, précisément, le féminisme se sera développé et la femme nouvelle apparaîtra.
Madame, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela, fit Dmitri Fiodorovitch en joignant les mains d'un air suppliant.
« Mais si, Dmitri Fiodorovitch, c'est précisément cela qu'il vous faut, ce dont vous êtes altéré sans le savoir. Je m'intéresse fort au féminisme. Le développement de la femme, et même son rôle politique dans l'avenir le plus rapproché, voilà mon idéal. J'ai une fille, Dmitri Fiodorovitch, on l'oublie souvent. J'ai écrit là-dessus à Tchétchédrine. Cet écrivain m'a ouvert de tels horizons sur la mission de la femme que je lui ai adressé l'année dernière ces 2 lignes. Je vous presse contre mon cœur et vous embrasse au nom de la femme moderne. Continuez. Et j'ai signé une mère. J'aurais voulu signer une mère contemporaine. Mais j'ai hésité. En fin de compte, je me suis bornée à une mère. C'est plus beau moralement, Dmitri Fiodorovitch. Et le mot de contemporaine aurait pu lui rappeler le contemporain, souvenir amer vu la censure actuelle.
Mon Dieu, mais qu'avez-vous ?
Madame, dit Mitya debout, les mains jointes, vous allez me faire pleurer si vous remettez encore ce que si généreusement. Pleurez, Dmitri Fiodorovitch, pleurez, c'est très bien, dans la voix qui vous attend. Les larmes soulagent. Plus tard, une fois revenu de Sibérie, vous vous réjouirez avec moi.
« Mais permettez !» hurla soudain Mitya. « Je vous en supplie pour la dernière fois. Dites-moi si je puis recevoir de vous aujourd'hui la somme promise. Sinon, quand faudra-t-il venir la chercher ?»«
Quelle somme, Dmitri Fiodorovitch ?»«
Mais les 3000 roubles que vous m'avez si généreusement promis. »«
3000 quoi ? 3000 roubles ? « Mais je ne les ai pas !» dit-elle avec quelque surprise.
« Comment ? Vous avez dit que c'était comme si je les avais dans ma poche !»«
Oh non, vous m'avez mal comprise, Dmitri Fiodorovitch. Je parlais des mines. Je vous ai promis bien plus de 3000 roubles, je me souviens maintenant. Mais c'était uniquement les mines que j'avais en vue. »«
Mais l'argent, les 3000 roubles !»
« Oh, si vous comptiez sur de l'argent, je n'en ai pas du tout en ce moment, Dmitri Fiodorovitch. J'ai même des difficultés avec mon régisseur, et je viens d'emprunter 500 roubles à Miusov. Si j'en avais d'ailleurs, je ne vous en donnerais pas. D'abord, je ne prête à personne. Qui débiteur a, guère a. Mais à vous particulièrement, j'aurais refusé, parce que je vous aime et qu'il s'agit de vous sauver. » Car il ne vous faut qu'une seule chose, les mines et les mines.
Oh, que le diable !
Hurla Mitya en donnant un violent coup de poing sur la table.
Aïe, aïe !
S'écria Madame Koklakov, effrayée, en se réfugiant à l'autre bout du salon. Mitya cracha de dépit et sortit précipitamment. Il allait comme un fou dans les ténèbres, en se frappant la poitrine à la même place que 2 jours plus tôt devant Alyosha, lors de leur dernière rencontre sur la route. Pourquoi se frappait-il juste à la même place? Que signifiait ce geste? Il n'avait encore révélé à personne ce secret, pas même à Alyosha. Un secret qui recelait le déshonneur, et même sa perte et le suicide, car telle était sa résolution, au cas où il ne trouverait pas 3000 roubles pour s'acquitter envers Catherine Ivanovna, et ôter de sa poitrine, de cette place, le déshonneur qu'il portait et qui torturait sa conscience. Tout cela s'éclaircira par la suite. Après la ruine de son dernier espoir, cet homme si robuste fondit soudain en larmes comme un enfant. Il marchait, hébété, en essuyant ses larmes de son poing, quand soudain il heurta quelqu'un. Une vieille femme, qu'il avait failli renverser, poussa un cri aigu. « Seigneur, il m'a presque tué! Fais donc attention, espèce de vaurien !»« Ah, c'est vous ?» cria Mitya en examinant la vieille dans l'obscurité. C'était la domestique de Kouzma Samsonov qu'il avait aperçue la veille. « Et qui êtes-vous, monsieur ?» proféra la vieille d'un autre ton. « Je ne vous reconnais pas. » « Ne servez-vous pas chez Kouzma Samsonov ?»« Parfaitement, mais je ne peux pas vous reconnaître. »« Dites-moi, ma bonne, est-ce que Agrafevna Alexandrovna est chez vous en ce moment ? Je l'y ai conduite moi-même. »« Oui, monsieur, elle est restée un instant et est partie. »« Comment partie ? Quand ?»« Elle n'est pas restée longtemps. Elle a diverti Kouzma Kouzmitch en lui faisant un conte, puis elle s'est sauvée. » « Tu mens, maudite !» cria Mitya. « Seigneur mon Dieu !» fit la vieille. Mais Mitya avait disparu. Il courait à toutes jambes vers la maison où demeurait Krouchenka. Elle était partie depuis un quart d'heure pour Mokroyé. Fenia était dans la cuisine avec sa grand-mère, la cuisinière matrone, quand arriva le capitaine. À sa vue, Fenia cria de toutes ses forces. « Tu cries !» fit Mitya. « Où est-elle ? » Et sans attendre la réponse de Fenia, paralysée par la peur, il tomba à ses pieds. « Fenia, au nom du Christ, notre sauveur, dis-moi où elle est !»« Je ne sais rien, cher Dmitri Fyodorovitch, rien du tout. Quand vous me tueriez sur place, je ne peux rien dire. Mais vous l'avez accompagnée. Elle est revenue !»« Non, elle n'est pas revenue, je le jure par tous les saints. »« Tu mens !» hurla Mitya. « Rien qu'à ta frayeur, je devine où elle est !» Il sortit en courant. Fenia, épouvantée, se félicitait d'en être quitte à si bon compte, tout en comprenant que cela aurait pu mal tourner s'il avait eu le temps. En s'échappant, il eut un geste qui étonna les deux femmes. Sur la table se trouvait un mortier avec un pilon en cuivre. Mitya, qui avait déjà ouvert la porte, saisit ce pilon au vol et le fourra dans sa poche. « Seigneur, il veut tuer quelqu'un !» gémit Fenia.